l'opposé, mais il faut faire la différence avec les traditions. La tradition, c'est un petit peu ce que l'Église porte au long des siècles, qui n'est pas forcément dans l'Écriture, mais qui a permis à des chrétiens de progresser. Je pense en particulier les pères de l'Église. C'est un travail compliqué. La tradition, c'est ce qu'on porte depuis les origines. Moi, ce que j'aime bien pour rappeler cette histoire de la tradition, c'est les paroles de saint Paul. Dans la lettre aux Corinthiens, il avait constaté que les chrétiens se disputaient un peu ou un peu plus à Corinthe. Donc il commence par dire concernant la célébration de l'Eucharistie. Voilà ce que j'ai reçu. Le Christ, la veille de sa passion. Vous voyez un petit peu, le saint Paul ne dit pas c'est moi, il dit voilà ce que j'ai reçu. Donc il y a déjà une tradition qui existe. On est dans les années 50, justement dans les années 30. 20 ans après, il fait référence à la tradition. Et les évangiles sont encore écrits. Est-ce que ça permet de distinguer la tradition de ce qu'on peut dire traditionnel? Ce qui est traditionnel, en général, ça s'arrête à Vatican I ou au Concile de Trente. Ça remonte rarement au pape. Autre exemple pour dire traditionnel, comment il faut célébrer l'Eucharistie. Dos au peuple, face au peuple, un petit peu toutes les discussions. Lorsqu'on va en pèlerinage à Jérusalem, tout au moins avec le diocèse d'Arras, on passe le premier jour au soir dans une église du 6e siècle. Et dans cette église du 6e siècle, il n'est pas possible de dire la messe en tournant le dos aux gens. Il y a un demi-cercle, l'autel qui est assez près, il y a la place du prêtre et éventuellement des acolytes, mais on est automatiquement face à ces gens. Donc l'architecture ancienne, traditionnelle, parce que là je fais exprès, l'architecture traditionnelle, nous présente une assemblée où le responsable de cette communauté se trouve devant les gens et non le dos aux gens. Pour aider un peu par rapport à ce mot traditionnel qui embarrasse beaucoup aujourd'hui. Sauf que certains restes donnent un refuge. Mais je vous ai donné les pourcentages tout à l'heure, 2400, moins 5, moins 6. Donc cette grande tradition de se réunir de temps à autre, autour du pape, se réunir de temps à autre autour du pape, pour, je ne vais pas dire redéfinir la doctrine de l'Église, mais préciser tel ou tel point en faisant des évolutions, en fonction des évolutions de la société. Cette manière de faire est traditionnelle. Le Concile Vatican II est le 20e du nom à s'appeler œcuménique. On a eu Vatican II, 100 ans avant Concile de Vatican I, pour lequel on dit maintenant on n'a plus un concile puisque le pape c'est lui qui décide de tout. On s'est rendu compte qu'il fallait encore se réunir. Donc on a repris l'ancienne tradition que de temps à autre, les responsables de l'Église, autour du pape se réunissent pour discuter et voir quelle réponse apporter à l'Église.
Comment ça se passe, comment on va arriver au texte final et...
il y a eu 4 sessions entre septembre et décembre. C'est moins chaud à Rome. Donc, en gros, il y avait un trimestre par an où ils étaient plus ou moins, je dis bien, tous ensemble. Lorsque je dis tous ensemble, on a toujours la photo classique que vous aviez eue tout à l'heure en entrant dans cette église, où on voit tout le monde aligné. Ça, c'est lors des assemblées générales. Il n'y avait pas que les assemblées générales. D'abord, il fallait pouvoir se parler dans les différentes langues. Il y avait, tous les évêques ne savaient pas parler latin, or la langue officielle, c'était le latin. Bon, donc ça, c'était l'assemblée générale, et il y avait un certain nombre d'assemblées par langue. Donc, on se réunissait des hommes par langue, et ensuite, on se réunissait plus ou moins selon les sujets traités. Sachant que les documents arrivaient, par exemple, au diocèse d'Arras, mais partout, arrivaient avant la session. Donc chaque évêque était invité à travailler ce dont il allait être question. Donc il y avait une espèce de mise en commun, plus ou moins menée par groupe. Alors, ce que je n'ai pas dit, je devrais peut-être le dire aussi. Il y avait des tendances. Il y avait, j'ai dit le cardinal Ottaviani, bon ben c'est un courant. Il y avait le cardinal Alfred, c'était un autre courant. Enfin, selon les évêques se réunissaient aussi, dans certains cas, selon leurs affinités. Par exemple, les évêques d'Amérique latine, un certain nombre, se sentaient très à l'aise avec les évêques européens de France, par exemple. Ces petites unités, ces moyennes unités, et l'Assemblée générale, alors les votes. Lorsque je parlais d'amendements, ça peut être 2000, 3000, 4000 amendements. Et finalement, il y a du travail, des travaux intermédiaires, des commissions qui ont préparé le document, qui prennent en compte les amendements, acceptés ou rejetés. Et à la fin, ce texte, il est proposé à l'Assemblée générale, qui l'accepte ou le refuse. Et c'est seulement à la promulgation principale, donc là je vous disais tout à l'heure 2500 en général, 2400-2500 votants, moins 10 abstentions et 7, 8, 10, je crois que le maximum ça a été 21. Ce texte est accepté par l'Assemblée générale et ensuite le pape le publie. C'est pas toutes les signatures, si vous voulez, qui sont, mais c'est la signature du pape qui a présidé au débat de l'Assemblée. Le travail intermédiaire, tout à l'heure, j'ai parlé de Mgr Vic qui aimait beaucoup rencontrer un certain nombre de chrétiens et de prêtres pour pouvoir débattre de tel ou tel sujet. Les évêques ne sont pas au courant de tout. Donc, eux-mêmes, dans leur diocèse, avaient besoin d'avoir ces informations. Et à Rome, il y avait un certain nombre d'experts, c'est-à-dire des théologiens. Chaque évêque pouvait venir avec son expert attitré. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait une discussion, selon le sujet, bien, l'expert qui était compétent pouvait intervenir auprès de l'évêque, bien sûr. C'est ce fourmillement de grandes assemblées, moyennes assemblées, petit travail de base qui a fait que ce fut une énorme aventure humaine. Pour les évêques qui ont participé, c'était une aventure formidable. Je peux encore demander à Mgr Lévy pendant qu'il est encore là. C'est le plus vieil évêque au monde actuellement.
Et le plus jeune?
Ça vous semble un peu plus clair là, ce travail, ces allers-retours? Normalement, ils étaient que observateurs. Je pense à Athénagoras, par exemple. Athénagoras Paul VI, hein, on l'a souvent fait. Mais n'empêche qu'on ne peut pas parler de la même manière à un orthodoxe, un de l'orthodoxie lorsqu'ils sont là que s'ils ne sont pas là. Ben, partout, on fait attention à ce qu'on dit. C'est humainement parlant, on fait un peu plus attention. Je ne sais pas le mot respectueux, je ne sais pas comment dire, mais humainement parlant, parler des orthodoxes ou parler des réformés, en leur présence, entraîne un autre type de langage. Bon, ce n'est pas la seule raison, parce que les évêques et les cardinaux allaient les trouver aussi pour voir un petit peu quel était leur propre point de vue. Frère de Thésée, par exemple. Alors, je n'ai pas parlé des journalistes. J'ai parlé de l'aventure, de l'aventure humaine et spirituelle pour ces évêques. J'ai dit uniquement la collégialité tout à l'heure. Aventure humaine et spirituelle, mais aussi l'impression que c'est la première fois qu'il y avait des journalistes du monde entier qui répercutaient immédiatement ce qui se passait. Nous, tous les jours au matin, les séminaristes, tous les jours au matin, on regardait dans la croix les dernières nouveautés qui étaient parues. Il y avait un agglutinement autour du journal, de façon à voir, à entendre ce qui se disait, à le commenter aussi. Donc, la présence des journalistes, ça donnait une caisse de résonance mondiale immédiatement à ce qui était dit. Lorsqu'on dit c'est les évêques entre eux, c'est plus large que ça, cette caisse de résonance. Alors après, je ne parle pas des débats ou des conférences que les experts donnaient sur tel ou tel sujet, soit à Rome, soit ailleurs, et que rien n'était interdit. Je l'aborderai la fois prochaine. Et en deux mots, pas pour tout dire, mais dans l'ensemble des chapitres de Lumen Gentium, est-ce qu'on met Marie en dehors de l'Église ou est-ce qu'on la met dans l'Église?
Dans l'Église.
Est-ce que Marie fait partie de l'Église ou est-ce qu'elle est à côté de l'Église? Ça n'a pas été ça à décider. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait un traité sur Marie, comme on fait un traité sur la parole de Dieu, ou bien sur l'Église, ou bien lorsqu'on parle de l'Église, on laisse une place à la Vierge Marie? La réponse la prochaine fois.
À ce propos, il y avait des femmes à Vatican
II. Oui. Oui, il y avait des femmes. Dans les experts, il y avait. Vous connaissez une de l'apostolat des laïcs qui était présent.
Comment on peut expliquer que ce texte, pratiquement, il a été oublié pendant 40 ans
le texte oublié, c'est vrai que moi j'ai un petit peu parlé en termes d'oubli. Disons, il n'a pas capté, parce qu'il était un peu difficile. L'élaboration a été tellement dure, et même l'élaboration fait qu'on avait un peu peur de ce texte. On ne comprenait pas trop bien toutes les arguties qui ont fait deux sources ou une source, etc. Mais plus que ça, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le fait qu'on s'est embarqué, d'une part, sur la réforme liturgique. Toute l'Église s'est embarquée sur la liturgie, l'architecture, de rien. Et plus encore que la liturgie et l'architecture, la compréhension de l'Église, la place des baptisés, l'apostolat des laïcs, tout ça, c'est un héritage. Donc, pendant les 30 premières années, tous les théologues, enfin, tous, majoritairement, disons, on a parlé de l'Église. L'Église peuple de Dieu. Oui, mais peuple de Dieu, c'est pas un beau mot, peuple. Donc le mot est disparu, c'est le mot communion. Il y a eu des clivages, il y a eu des communautés de communautés, et non plus peuple de Dieu, je ne sais pas ce que dirait Geneviève, mais dites-moi ça sur le mot peuple de Dieu par rapport aux premières années. Donc, en gros, sur les 30 années, c'est le dernier que j'ai entendu, que j'ai lu, c'est Bertillard. C'est sur l'Église, donc le gros morceau, que devient une Église. Ce qui fait que la parole de Dieu, le travail était plutôt sur l'exégèse, les nouvelles recherches, etc. Dire qu'il n'y a rien eu, j'ai peut-être exagéré, mais ce n'était pas ça qui était mis en compte.
Concernant la Vierge Marie, elle est-elle pas la Mère de l'Église?
Ce sont tous des débats qui ont eu lieu, Mère de l'Église et Mère de Dieu. Alors ce sont tous les débats qui ont lieu pour la préparation de l'humain gentium, tout en disant Mère de l'Église, qui est une définition d'avant le Concile a voulu intégrer Marie dans l'Église. C'est une femme de notre humanité, qui a eu des privilèges spéciaux, mais une femme de notre humanité qui fait partie de l'Église. Le danger, c'est de la mettre hors. Alors c'est là qu'il y a tous les groupes de pression dans l'Église depuis 150 ans, 200 ans. À propos de Marie, moi j'aime bien d'un vieux souvenir d'avoir visité la cathédrale de Chartres avec un chanoine du genre de Monseigneur, du Père Bello à Saint-Omer, je ne sais pas si vous connaissez, il était enjoué. Alors une fois qu'on avait fini ce tour de la cathédrale, il disait, vous voyez, dans la cathédrale de Chartres, il y a 153 représentations de Marie. On a 152 authentiques et une fausse. Nous, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi la fausse? Et sa réponse a été de dire, si vous regardez les représentations de Marie, elle est toujours avec l'enfant Jésus. Enfin, l'enfant ou bien Jésus adulte, prenez Cana, prenez la Nativité, prenez les Pietas. Donc, énormément de représentations de Marie, toujours avec lui. Il y en a une seule qui n'est pas d'époque, elle était du 19e siècle, et c'est Marie seule. Alors, lorsqu'on parle de Notre-Dame des Ardents, il y a deux représentations de Notre-Dame des Ardents à Arras. Donc il y en a une qui est là au-dessus de, dans le cœur de Notre-Dame des Ardents, au-dessus du tabernacle, avec Marie qui tient le cierge. Et à Saint-Jean-Baptiste. Qui elle est plus ancienne, puisque je crois qu'elle est du 15e siècle, donc cette représentation en marbre, on a Marie qui tient le ciel, mais dans les bras qui a l'enfant Jésus qui porte l'enfant Jésus. Donc la tendance des 150 dernières années, c'était de séparer, je suppose que c'est involontaire, mais Marie de son enfant. Voilà, voilà. Il y a au moins une traduction par langue. Donc c'est traduit en différentes langues. Mais chaque traduction est la traduction officielle. Comment dire ? C'est pas n'importe. Le document ici, c'est les documents officiels d'après la traduction officielle. Alors en haut de chaque page, il y a le texte en français, mais en bas, il y a toujours le texte en latin qui est le texte de référence. Les diocèses, je ne peux pas dire qu'avant 1950, il y avait des relations entre les évêques et leur peuple. Il y avait l'obligation un mandement chaque année. Donc il y avait le mandement de l'évêque qui était un petit peu la lettre pastorale, si vous voulez, on disait mandement. Il y avait d'autre part la visite. Normalement, les évêques étaient appelés à faire la visite de leur peuple, qui faisait ce qu'ils voulaient. J'ai vu l'été dernier, pendant mes vacances, Saint François de Sales, qui à cheval faisait le tour de toutes les petites paroisses dans les montagnes. Alors à cheval, le matin, ça commençait à 7h par la messe. Alors, le rituel était le même, visite de l'église, des trous qu'il y avait dans le toit, etc. Les outils liturgiques et puis les vêtements liturgiques, certains étaient très, très dégradés. Donc il y avait à chaque fois un rapport. Il faisait en général une homélie pour les gens qui étaient là, et puis après il passait le lendemain à un autre endroit. Tous les évêques ne le faisaient pas, mais fidèles, là c'était le concile de Trente, ils visitaient tout son peuple. Mais de là à dire qu'il y avait un synode, je ne sais pas comment dire, synode ou concile de diocèse, ça n'existait pas. Il y avait le Conguerre qui disait le rôle, la place des laïcs dans l'Église, c'était d'être à genoux pour la prière, à genoux, assis pour entendre le prêche, et puis de mettre la main au portefeuille. C'était la seule responsabilité d'après combien, reprenons ça, d'un évêque.
Je crois qu'il faut mettre quand même une sourdine parce que les actions, l'action catholique de CNC, c'était déjà des laïcs qui avaient une action dans le peuple et qui étaient l'église dans la ville où c'était l'évêque qui décidait qui était le secrétaire de la JEC dont je faisais partie, dans le diocèse. Et on avait une relation avec l'évêque en tant que justice.
Oui.
En 1950,
jusqu'en 1975, les mouvements d'action catholique étaient mandatés, ils avaient mandat de l'évêque pour représenter l'évêque. Mais alors, selon le type d'évêque qu'on avait, il y avait le dialogue ou non, mais on ne pouvait pas dire que les mouvements d'action catholique avaient place au conseil ou conseiller, moi, cet angle-là. Mandaté par l'évêque, l'évêque était attentif à son peuple comme un certain nombre. Écoutez ce qui se passait. Moi, je reprendrai le cardinal Guénard. S'il s'est fait faire cardinal, c'est parce qu'il avait pris la défense de grossistes en grève dans une usine en 1919, je crois. Donc, il a été dénoncé pour avoir soutenu la GEC. Lui qui était conseiller, il est revenu cardinal. Bon. On ne peut pas dire qu'il y a toujours eu beaucoup de dialogue dans la. Dans la construction de l'Église, donc dans le fonctionnement de l'Église, les mouvements sont apparus et ont favorisé le développement de cette Église avec l'apostolat de l'Église. C'est plus par après. Tout à l'heure, je disais de Conguerre qu'il avait hérité des dialogues avec l'action catholique. Donc c'est de cette manière-là que des théologiens ont pu influencer le regard de l'Église universelle. Ça me permet en même temps de répondre à la deuxième partie d'une question. Comment on a évolué entre Vatican I et Vatican II? C'était prévu pour une session. C'est-à-dire qu'on commençait au mois de septembre, octobre, et puis en novembre, c'était terminé. Quoi. Ça veut dire, tout était prêt à être signé. Or, d'une part, le blocage de cardinal Guénard accepté par le pape, de dire, mais commençons par discuter entre nous et se rendre compte des différences des uns et des autres. Un évêque de l'île ou bien d'Arras qui rencontre un évêque d'Asie, on n'a peut-être jamais vu. Quelles sont les questions des chrétiens d'Asie? Les questions des chrétiens d'Afrique, d'Amérique latine? Donc, toutes ces questions-là ont fait surgir en eux cette conscience d'être les responsables de toute l'Église et pas seulement le porte-parole de son diocèse. Alors c'est à partir de là que c'est enclenché. Alors on a terminé au bout de 4 ans parce qu'il fallait terminer, que ça faisait long. 2500 évêques pendant 4 ans, enfin 4 fois un trimestre, plus le travail intermédiaire. C'était pas prévu.
Vous avez parlé tout à l'heure des séminaristes qui, tous les matins, regardaient la croix dans le séminaire. Comment, à l'époque, les séminaristes ont-ils vécu le concile? Est-ce qu'ils ont eu peur? Est-ce que ça a fait évoluer leur foi et leur engagement dans la vie chrétienne, et notamment de cette prêtre? Comment tout ça s'est passé? Et l'époque aussi, les séminaristes, après Vatican II, ils ont abandonné la soutane, non? À ce moment-là?
À ce moment-là.
Comment les séminaristes vivent ça? Crainte ou pas?
Pour la plupart, autant que je puisse dire, mais alors c'est toujours des généralités, pour la plupart, c'était une attente. Une attente d'une église plus proche des gens qu'ils rencontraient. Je ne peux pas dire à 100%, mais c'est incapable. Mais majoritairement, on était plus favorable, on discutait beaucoup. Après, il y avait les cours. Les cours étaient un peu plus officiels. Mais je pense au père Pinot, qui commentait en direct les dernières nouveautés. Donc, ben voilà ce qui est en jeu dans les discussions qui ont lieu actuellement. Par contre, je connais aussi un de mes enseignants qui disait bon, voilà, aujourd'hui, je veux commencer le traité sur l'Église. Donc, voilà ce que je devrais vous dire, mais ils sont en train de tout changer à Rome. Alors, par rapport au concile, il y a quand même eu, parmi les séminaristes, il y a eu un petit mouvement avec un directeur du séminaire, il y a eu un mouvement qui trouvait qu'on n'était pas assez spirituel, on s'intéressait un peu trop au monde. Donc, il y a eu un petit peu de scission, de tirage dans un petit moment. Donc, je ne peux pas dire à 100% dans le sens ou dans l'autre, mais il y a eu quelques séminaristes avec un de leurs professeurs qui a un petit peu fait ses sessions sur c'est pas assez spirituel. Globalement.
Et on a eu beaucoup, pour répondre à Jacques, on a eu beaucoup de chance parce que Bernard Quinault, par exemple, nous présentait les schémas proposés et on les discutait pour lui faire rapport et Gérard Huyg venait en fait nous écouter. C'était très intéressant. On a vu naître les textes.
S'adresse aux hommes en son immense amour, ainsi qu'à ses amis, et s'entretient avec eux. Moi, j'avoue que j'ai compris ça en écoutant Marie-Laure Rocher, qui a 3 ou 4 ans, à une conférence de rentrée de catéchèse, où elle dit, mais si on va jusqu'au bout, est-ce que nous, les catéchistes, c'est une assemblée de 500 catéchistes, est-ce que nous, les catéchistes, nous ne jouons pas le jeu de l'intermédiaire entre Dieu et les enfants? Tout passe par nous. Alors que notre rôle de catéchiste, c'est plutôt d'aider à favoriser ce dialogue de Dieu avec les enfants ou des enfants avec Dieu. C'est pas tout à fait pareil. Mais ça, moi, je ne l'avais pas perçu, pourtant. Alors, le top perso, le top perso, c'est un petit peu le livret personnel où l'enfant il fait ce qu'il veut. Mais même la catéchisme n'a pas à aller le regarder. Alors, les modules, chacun des modules articule, vous pourrez lire le prochain église d'Arras, ça je fais la publicité. Prochain église d'Arras parle des modules. Donc, dans chacun des modules, il y a une place pour la liturgie. Il est même souhaité, là où c'est possible, qu'il y ait un lieu de prière, je ne sais pas comment. Dans la salle, le lieu, un lieu de célébration, de prière. Donc, et puis, il y a une importance accordée à l'écriture dans chacun des modules. Ça c'est nouveau. Le concile de Trente, il a fallu 300 ans pour qu'il soit mis en application. Nous autres, il nous faut peut-être au moins 50 à 100 ans. Donc, on est au début de la mise en œuvre. On va croire que d'un seul coup, tout est clair. On comprend un peu à la fois.
Alors, je vous propose de vous éditer. Merci à Michel d'avoir toute la vie. Un grand merci.